moment-là?
Alors, je travaillais, évidemment, je travaillais avec mon père à ce moment-là. Je n'étais pas encore en 1944, j'avais 17-18 ans, parce que j'en ai 56 maintenant. Et alors, pendant la guerre, évidemment, ces constructions de murs de terre-là marchaient encore. Hein. C'était la crise encore, on ne trouvait pas de ciment, on ne trouvait pas certains matériaux manquaient. Alors, on construisait surtout des bâtiments à usage
agricole.
Oui. Ça. Des celliers, des étables, des granges, tout un tas de choses comme
ça. En 44. Et jusqu'à quelle époque?
Ah, c'était fini après 44.
Ah bon.
Quand la guerre s'est terminée, c'est-à-dire si quand même, j'en ai fait encore jusqu'en 1946, si je me trompe. J'en ai fait jusqu'en 1946 quand même, mais un peu moins.
Le conservateur, l'ancien archiviste, monsieur l'archivier, je vous dis tout à l'heure, de Rennes, Ville-et-Vilaine, me disait qu'il en a vu construire, la dernière qu'il a vu construire, c'était en 52.
C'est possible. Enfin, moi, personnellement,
Buffet,
j'en ai fait en 1946, j'ai fait mon service militaire après, et après, ça a été fini. Les matériaux sont revenus, on a retrouvé ce qu'il nous fallait pour faire la construction, puis ça a évolué. Il y a eu tout un tas de choses qui sont venues sur le marché, qui ont fait que, évidemment, ces murs de terre-là coûtaient très cher, peut-être pas par leurs matériaux, parce que c'est un matériau qui ne coûte pratiquement rien du tout, mais c'est la main-d'œuvre, évidemment.
Oui.
Qu'il y a sur ce genre de travail-là qui élevait le coût de ces choses-là.
Vous avez construit aussi des bâtiments à usage d'habitation?
À usage d'habitation, oui. Non.
Jamais. Vous, jamais.
Non, mais c'est le même.
Exactement le même principe.
Ces bâtiments,
mais là, vous n'avez eu
que des. À ce moment-là, pouvaient très bien servir pour des maisons d'habitation. Les maisons d'habitation, évidemment, il fallait y adapter certaines choses qu'on ne mettait pas sur les bâtiments agricoles. Par exemple, ces portes, là, ces encadrements de bois. Quoi qu'on en mettait aussi sur ces bâtiments-là aussi, des encadrements de bois que l'on plaçait, on mettait cet encadrement là et puis on montait la terre tout autour.
Oui, vous placiez d'abord les encadrements.
Oui, c'était pas nous qui placions ça, c'est le charpentier qui mettait ça, ces cadres de bois-là, plaçait ça, et nous, c'est double cadre bois intérieur, un cadre bois extérieur relié
par des planchettes.
Par des morceaux de bois assez épais, qui étaient avec des mortaises, étaient des chevilles, comme ça, très lourds et très solides aussi. Parce que ça m'arrive encore aujourd'hui de démolir justement de ces encadrements de bois-là pour pouvoir agrandir certaines ouvertures comme ça, et on a le mal de chien pour pouvoir sortir ça. C'est pas facile.
Comment vous faites pour agrandir? Vous y prenez comment actuellement?
Pour agrandir, il faut qu'on essaye d'abord de faire éclater le bois à l'endroit des chevilles. De toute façon, ce qu'on retire la cheville, une fois que la cheville est partie, automatiquement, on tape dessus et on arrive. Ce sont des morceaux de bois qui ne font quand même que 15 ou 15 de centimètres. On arrive, en dégageant tout autour, à sortir l'intérieur et à sortir l'extérieur après. Et alors, ces morceaux de bois intermédiaires-là viennent tout seuls.
Oui.
Mais il faut quand même décaper le... démolir le bois avec un burin et on éclate ça, et puis on arrache les chevilles. On ne peut pas faire autrement.
Il n'y a pas de différence de matériaux, enfin de la façon de procéder entre un mur d'un bâtiment annexe et un mur d'habitation?
C'est
exactement le même
procédé. C'est le même procédé, que ce soit une étable ou une grange ou une maison d'habitation, c'est le même procédé.
Votre père était maçon?
Ah oui.
J'en suppose.
Oui.
Ah oui. Et quand. Oui, enfin. Votre grand-père n'était pas maçon?
Non, mon grand-père n'était pas maçon, mais mon père était maçon.
Et quand quand vous travailliez avec lui en 44, il avait quel âge, lui?
Mon père en 44 avait 40. Il est de 1904, il avait 40 ans.
Il est de 1904. Et il était apprenti à quel âge?
Alors, mon père était apprenti de. Alors là, je ne pourrais pas vous dire trop. Je sais qu'il est, de 15-16 ans. C'est possible que ce soit.
Donc, il a appris ces techniques-là vers 1920.
Oui, parce qu'il s'est
marié. Après la guerre.
Il s'est marié en 1926, c'est ça. Oui, c'est possible que ce soit à peu près à cette époque-là.
Oui, donc, il vous a transmis pratiquement ce qu'il a appris en 1920.
Ah, oui.
C'était Est-ce que vous avez l'impression que c'était la même méthode qu'il employait en
1944? Oui, parce que lui, il y tenait à cette méthode de travail-là, que j'ai d'ailleurs conservée pour pas mal de choses, et que je vous assure, je ne renie pas, parce qu'on y trouve certaines satisfactions, certaines choses. Vous savez, il y a certains procédés qu'on avait à cette époque-là, que beaucoup de gens ont tendance à délaisser aujourd'hui, et puis qui sont quand même valables. Pas mal de choses, bien sûr. Parce que maintenant, on veut aller trop vite.
On y revient.
On veut faire un travail vite fait, c'est emballé en vitesse, et puis arrivé, on s'aperçoit après qu'il y a des problèmes. Problème de séchage. Par exemple, quand on monte une maison, je me souviens, autrefois, on coulait d'abord les fondations en terre. C'était pas du béton armé, c'était des cailloux que l'on remplissait dans les fondations. Des cailloux que l'on mettait un par un, comme la pierre en dessus, que l'on maçonnait de la même façon en reculant dans la fondation. Et puis après, une période de séchage de 15 jours. Parce qu'il fallait que tout ça se sèche bien comme il faut. Tandis qu'aujourd'hui, on coule les fondations, dès le lendemain,
on monte
là-dessus, on monte la maison et on fait la façade un mois après. Tandis qu'autrefois, on faisait les façades 6 mois, 1 an après.
Mais quand vous dites on faisait les fondations, c'était pas au ciment, vous ne parlez pas de ciment.
Non. Placer des cailloux que l'on maçonnait du sable et du ciment, de la chaux.
Du sable et de la chaux. Pour les fondations.
Pour les fondations. Et la maçonnerie en dessus, en élévation aussi. En chaux grasse. De la chaux blanche, de la chaux qu'on éteignait. Des cailloux, on faisait un grand trou en terre, on mettait le caillou là-dedans, on arrosait ça, et puis alors évidemment ça dégageait.
On a interviewé un homme qui est maintenant disparu, que vous avez peut-être connu, c'était Schubert.
Le père Schubert,
qui était un ami de mon mari, ils allaient la chasse ensemble. Et alors le père Schubert nous racontait comment il vendait la chaux.
Moi-même, avoir été chez le père Schubert. Je l'ai très bien connu.
C'est le genre d'interview qu'on aime bien faire.
C'est ça. Chez le père Schubert, ils avaient leur sac de... On nous vendait ça au sac, c'était des sacs de toile, je me rappelle encore. Et puis alors...
De toile. Parce que ça, pourtant, ça craint l'humidité.
Oui, mais alors, cette chaux-là est en cailloux.
Oui.
Alors, dans des sacs de papier, automatiquement, les cailloux déchirent le papier, ils ressortent, tandis qu'en toile...
Oui, mais ça prenait l'humidité quand même.
Ah oui, mais même la chaux et le ciment à cette époque-là étaient dans des sacs de toile que l'on rendait. Ces sacs de toile-là étaient attachés avec un fil de fer spécial, je vois encore, avec une petite boucle à l'extrémité. On vidait le sac, on le secouait, on les attachait et on les rendait. Et au début, moi, quand j'étais au métier encore, ces sacs de papier qu'on a aujourd'hui, on les rendait pas, mais on les revendait, tandis qu'aujourd'hui, on jette ça, on brûle ça.
Alors vous êtes né en quelle année?
En 1926.
Et vous avez commencé à travailler à quelle époque?
J'ai commencé à travailler en 1939. J'avais 13 ans. Je suis tombé à l'époque de la guerre et je voulais continuer un peu les études. Et puis alors, mon père m'a dit, même si la guerre, maintenant, il va falloir que tu viennes avec moi. Je suis parti avec lui. Alors, on travaillait tous les deux.
Est-ce qu'on peut revenir à les fondations là dont vous parliez, pour les maisons de terre? C'était des fondations pour les maisons de pisé dont vous parlez.
C'est ça, pour les maisons de pisé.
Les maisons de pierre. Mais vous faisiez quelle fondation? Quelle profondeur à peu près?
Alors là, c'est en fonction du terrain. Vous aviez du terrain où il fallait descendre à 50 cm, d'autres terrains où il fallait descendre à 1 mètre.
Et en fonction de quoi dans le terrain?
Il fallait que l'on retrouve une terre jaune, comme on disait à ce moment-là, un genre de la cosse, qu'on appelait ça.
Ah oui.
La cosse, enfin je ne connais pas exactement le terme de cette terre-là, c'est un sorte d'argile.
Oui.
Alors il fallait que toute cette terre arabe qui était dessus-là disparaisse.
Ah oui, d'accord.
Une maison sur de la terre arabe a atteint tendance
à se tasser. Donc il fallait que vous arriviez à la couche d'argile pure.
Et c'est encore le même principe aujourd'hui.
Et alors vous faisiez des fondations de la largeur des murs
de 50 cm, parce que c'était des murs de 50 cm, quelquefois de 40, mais surtout de 50 cm.
Alors vous mettiez de la caillasse au fond?
Des cailloux. Des cailloux qui étaient un peu moins jolis que ceux qu'on met en élévation, qui étaient un peu moins beaux, mais qui quand même, on les plaçait.
Des gros.
C'est ça, des gros cailloux. On mettait du mortier.
Vous les placiez bien, avoir vos gestes.
On se mettait dans la fondation comme ça, on maçonnait ça et on reculait.
Ah oui, je comprends.
Comme dans la tranchée.
Comme dans une tranchée.
On reculait dans la tranchée, une pièce en mortier d'un côté avec le...
Chaux et sable. Chaud et sable ou chaud et argile?
Ah non, chaud et sable.
Chaud et sable.
Oui, sur le sable.
Et alors, vous mettiez une couche, de ciment, de liant.
De pierre. Oui, aujourd'hui, oui. On met une petite couche de 3 cm, on place notre caillou dessus à condition qu'il porte bien sur celui en dessous. Ça, on le tasse avec un marteau. Que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui. Il faut qu'on tâche justement, et ce sont des choses qui, je vous assure, que je vous parlais tout à l'heure de certains détails, en voilà encore un. Alors on place le caillou, pof, on le met là, il fallait, je me rappelle mon père, il dit, allez, tasse ton caillou.
Mais oui, mais maintenant, monsieur, le ciment,
oui.
Il prend assez vite, oui, et il tient le caillou, on n'a plus besoin de le coincer.
Mais quand même.
Ah oui, c'est bien.
Maintenant, on fait de meilleures constructions, je crois qu'on en fait aujourd'hui.
Quand les ouvriers étaient de bons ouvriers quand même, parce que...
Mais les ouvriers ont appris leur métier d'une façon beaucoup plus consciencieuse qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Voilà, on ne s'attarde plus sur les détails. Et pour moi, ces détails-là ont une grande importance.
Vous avez le goût du bien faire.
Les fissures qui se produisent quelquefois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire de ça produire. Évidemment, autrefois, il y avait des fissurations qui se produisaient, mais dans les murs de terre, pas tellement. Et dans les murs de pierre, non.
Alors là, quand vous aviez fini de remblayer votre tranchée, vous continuiez en élévation sur un mètre.
Alors là, quand c'était sorti de terre, au niveau de terre, on se mettait un maçon de chaque côté du mur. Voilà, chacun maçonnait son parement. Voilà, ça passe.
Et au milieu, vous mettiez
quoi?
Et
au milieu, on mettait des cailloux un peu moins gros, avec du ventilateur.
Je parle toujours des maisons de terre. Hein.
Oui. Alors, quand c'était rendu, il fallait qu'on fasse une maçonnerie d'au moins 60-70 cm au-dessus de terre, parce que le mur de terre ne peut pas descendre jusqu'au sol.
Non.
Parce que la terre arrive, c'est mal à dire, mais ça arrive à pourrir aussi. L'humidité, le séchage, alors on voit la terre qui se désagrège, on en trouve quelques-unes comme ça qui ont été maçonnées trop bas. L'eau de la. Autrefois, on n'était pas de gouttière, l'eau du balai tombait au pied du mur, ça éclaboussait le mur, et puis on voit la terre qui s'effrite. Alors pour ça, pour faire un soubassement au moins de 70 cm, le minimum. Maintenant, on les faisait beaucoup plus haut. On faisait d'un mètre, carrément. Et alors, on arrosait un mètre, bien droit. Et
c'est
après,
ça, il fallait que ce soit bien droit, pour passer au pisé pur.
Voilà. Et alors après, ben, on passait au stade de la...
Le mur, il fallait qu'il sèche combien de temps avant le soubassement, avant que vous passiez au pisé?
Oui, alors là, il fallait un temps de séchage de 15 jours. De façon à ce que ces pierres-là étaient bien collées, justement, pour qu'on remonte dessus. Parce que pour faire ce mur-là, il faut remonter sur le mur.
Voilà, vous mettez debout sur le mur.
Debout sur le mur.
Il faut que ce soit solide, oui.
Oui, c'est ça. Alors, il faut que le maçon soit debout sur le mur avec une fourche spéciale, une fourche plate, avec des dents plates, et qui prennent les fourchées de terre qu'on lui envoie, et lui les met en place. Voilà. On met une fourchée là, une autre sur le bord, une autre au milieu. C'est à lui de voir si que ça déborde du mur de 5-6 cm, 5-6 cm, 10 cm quelquefois.
Plus large que le mur de pierre. Après.
Plus large que le mur de pierre, parce qu'il faut retailler.
Ouais.
On n'arrive pas à faire un mur net directement en pierre comme ça. Alors quand on monte une levée, qu'on appelait ça, une levée de 50-60 cm. Voilà. Et alors là, tout autour de la maison, et alors quand cette levée-là avait séché, là, il fallait encore 15 jours, 3 semaines, ça dépend de la température, que ce soit sec. Alors, quand c'est sec, à ce moment-là, on taille. On taille le mur, à 50 cm, à la même largeur que le mur de pierre.
Et avec quoi vous taillez?
Avec une paroi, alors qu'on appelle ça à ce moment-là, c'est un genre de pelle à bêcher. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que c'est qu'une pelle à bêcher? Et alors au lieu d'être tordue comme certaines le sont, il fallait qu'elle soit bien droite. Et on monte sur le mur, vous comprenez? Alors on fait une petite saignée pour voir l'aplomb, dans un bout ou dans l'autre, un cordeau, et on taille au cordeau pour retrouver le mur de pierre qui est dessous. Voilà.
Relativement simple. On dirait que vous êtes encore en train de refaire ça.
Oui. C'est une époque quand même qui m'a un peu marqué, parce que moi j'ai connu l'évolution, justement. Je me trouve à cheval sur les deux.
Oui.
L'ancienne époque où on faisait ce genre de travail-là, sans bétonnière, sans grue, sans camion, ni rien. Oui. Et aujourd'hui, avec la nouvelle méthode, tout le matériel qu'il faut pour pouvoir faire tout ça. C'est pour ça que j'explique ça quelquefois à mes compagnons, à mes enfants, tout ça. Mais on m'écoute parce qu'on sent que ça les intéresse.
Est-ce que vous avez formé justement des compagnons à cette technique?
Ah non, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en faire maintenant.
Non.
Parce qu'après, évidemment, j'ai grandi, je suis revenu au service militaire, et puis alors j'ai on m'a jamais demandé de faire de maison de terre. J'en ai fait étant au service de mon père, c'est tout.
Oui, c'est ça. Alors, au point de vue saison, parce que c'est bien beau,
ça. Ce genre de travail-là, il faut que ce soit fait quand même à la belle saison. Évidemment, on peut le faire en hiver, mais il y a beaucoup plus de risques.
La belle saison en Bretagne, c'est quoi?
À Rennes. C'est une température quand même de... Température de moins de 10-15 degrés quand même, il ne faut pas faire en dessous comme en ce moment. Bon, le séchage se fait mal, la terre glisse et on risque d'avoir des chutes de...
Oui, mais et la pluie a une influence?
Alors, remarquez, non, la pluie, non. Si c'est fait aujourd'hui qu'il fait beau, par exemple, s'il pleut demain, par exemple, on sait que ça ne bougera déjà plus.
Ah, le lendemain, ça ne bouge plus?
Ah, non, ça bouge déjà plus. Si le mur est bien d'aplomb, s'il est bien assis et tout, non, ça ne bougera
plus. Vous ne pouviez pas travailler sous la pluie?
Sous la pluie, non.
Bon, donc il fallait que ce soit
dans
la belle saison.
Le faisait quelquefois, mais alors, c'est pas tellement recommandé. Hein.
Et s'il pleuvait le lendemain, ça n'avait pas d'importance? Parce que autrement, ça devait limiter quand même énormément. Parce qu'il fallait attendre le printemps, et au printemps, il pleut en Bretagne.
C'est un peu la même chose avec le travail qu'on fait aujourd'hui pour la pose de pierre, la pose de parpaing, la pose de briques et tout ça. Quand il pleut, d'abord, premièrement, les gars n'ont aucun rendement. Ils attrapent du mal, ils se mouillent et tout. Moi je suis contre ça. Moi, quand il pleut, je dis aux gars, je dis, allez, pour du soir, vous rentrez chez vous, je vous mets aux intempéries, puis c'est tout, on paye des intempéries.
Ah oui, vous mettez aux intempéries pour la pluie aussi.
Ah mais oui,
je croyais que les maçons travaillaient sous la pluie.
Les gars, certains le font, moi je ne le fais pas parce que j'estime que c'est pas. Bon, évidemment, on est un peu perdant, le patron comme l'ouvrier, parce que l'ouvrier est payé à 75% de son salaire.
Oui.
Et alors, sur ces 75% du salaire, le patron lui est remboursé à, je crois que c'est 50. Le patron est en perte en gros de 25%, quoi, à peu près. Et l'ouvrier aussi. Mais, vous savez, hein, il arrive des pépins quelquefois par la pluie, on glisse, on a accident, on attrape des maladies. Moi, ça m'est arrivé d'avoir voulu travailler quelquefois dans le froid et dans la pluie comme ça, avoir un gars ou deux fois gars en même temps de malade. Alors, vous savez, le résultat est...
Alors, d'après ce que vous dites, là, si je comprends bien, il fallait pas beaucoup d'outils.
Non.
Des fourches, des parois.
Alors, il nous fallait peut-être des pioches aussi pour quand même décaper la terre. Si on prenait dans le sol, sol par exemple comme celui-ci, qui est quand même un peu dur quand même déjà maintenant, il faut quand même que ce soit pris la pioche quand même, ou peut-être avec un boucard qu'on appelait ça. C'était un genre de pioche avec deux dents, vous savez, avec un manche, puis alors deux dents qui sont longues comme ça, qui font en gros 25-30 cm. Et alors... comme si on faisait du jardinage, on retourne la terre, mais l'herbe, il faut qu'elle s'en aille avant, il faut que ce soit décapé. Hein. Alors on décape l'herbe, on remue sur une profondeur de 20 cm à peu près, hein, et on écrase la terre bien, bien menue.
Vous la sortez?
Non, on la laisse sur place.
Vous la laissez dans le trou, vous enlevez ce qu'il y a au-dessus.
À condition qu'elle soit au pied du mur.
C'est ça,
Pour pas qu'elle soit à 10-15 mètres, pour que la terre se trouve le long du mur.
Vous extrayez... Où vous faites le mur.
Ou alors on amène de la terre à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Ou alors vous l'amenez toute préparée.
Si on ne peut pas prendre cette terre-là au pied du mur, si le terrain ne peut pas donner la terre qu'il nous faut au pied de cette construction-là, on amène la terre avec autrefois, je me souviens, les fermiers amenaient ça avec leur charrette. Hein, on amène ça, puis on l'étale. On l'étale sur une hauteur de 20 cm à peu près. Et on l'égraine. On l'égraine bien comme il faut.
Qu'est-ce que vous appelez égrainer?
Égrainer, qu'est-ce qu'il dit?
C'est plus une motte.
Voilà.
Ah, oui. Alors vous égrainiez avec quoi?
Avec ce boucard là.
Ah oui,
égrainé. Ben, je vous parle du boucard, je ne sais pas si c'est le terme
qu'on appelle.
Ben, je vous parle avec les termes du moment.
Hein. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui est important. Oui. Alors vous égrainiez, et puis il y avait des cailloux.
Oui, alors tous ces cailloux-là, évidemment, si on trouvait des tout petits cailloux, bon, ceux-là, on n'y touche pas, mais les cailloux quand même d'une certaine grosseur, là
5 cm.
Oui, il fallait que ça s'en aille. Hein. Ouais. Il fallait que ça s'en aille. Les cailloux que l'on trouvait, évidemment, il en restait. Hein. Pour tous les voir. Alors une fois que cette terre-là, c'est le même principe qu'une planche, de jardinage que l'on bêche, voilà, qu'on égraine bien comme il faut. Et alors après, quand ça s'est bien égrainé sur une largeur de 3 mètres à peu près, quoi, voilà, alors on mouille le tout. avec des seaux. À ce moment-là, on mouillait ça avec des seaux. Mmh. On mouillait tout avec des seaux de façon à ce que la terre soit bien imprégnée, mais pas trop molle, attention. Hein. Et alors
quand c'est... excusez-moi, dans, pour une largeur de, d'un mètre.
De 3 mètres. À
3 mètres.
Ah, oui,
et une épaisseur de terre.
De 20 cm.
20 cm.
Non, il n'en faut pas trop, il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'on a trop de mal.
Oui, 20 cm, oui.
Relevez ça.
Alors vous mouillez.
On mouille, et alors après, on recommence, comme on a fait la première fois quand on a égrené la terre, on recommence avec le boucard. Mmh. Voilà, évidemment, la terre commence à devenir molle à ce moment-là.
Ah, oui.
Et c'est à ce moment-là qu'on la travaille. Voilà, on le ramène et puis on tape avec le dos de façon à ce que la terre ait des pieds qui commencent à devenir une pâte, vous comprenez? Jusqu'à ça qu'elle devienne une pâte. Alors là, toute la longueur, je crois, on faisait des passés qu'on appelait ça de 5-10 mètres de long, à peu près, de la longueur du mur qu'on voulait faire.
Oui.
C'est ça. Et alors quand la terre était bien mélangée en pâte, mais pas trop molle, attention, parce que quand c'est trop mou, alors là on ne peut rien faire. Hein. Il faut que ce soit comme de la. Comme de la boue que l'on trouve dans les champs de temps en temps, mais plutôt dur. Hein. Mmh. Voilà. Alors quand ceci est fait,
qui colle aux chaussures.
C'est ça. Qui colle aux pieds. Et alors quand cette terre-là est devenue dans l'état, je vous dis, alors on retourne dans un bout, et alors à ce moment-là, avec des fourches, on fait une mottée. On appelle ça. Alors si j'avais un crayon,
bien sûr.
Je m'expliquerai un peu mieux. Voilà, une supposition qu'on ait un grand bâtiment à faire comme ça. Bon, une supposition que ce soit une table, un truc comme ça. Il faut que l'on prenne la terre tout autour.
Oui, mais à quelle distance du pied du mur? Parce que ça doit déchausser la tranchée que vous avez faite préalablement.
Il faut que la mur soit fait en fonction, en fonction de ça. Hein. Vous voyez, alors, vous voyez, tout autour comme ça. Bon, il faut un mur tout autour, voilà.
Jusqu'au
ras du mur.
Et ça ne déchausse pas vos fondations.
Il faut que la fondation soit faite 20 cm plus basse.
Ah oui.
Il faut prévoir la terre.
Et c'est ça, donc vous arrivez au ras de la fondation. C'est la fondation qui va tenir la base.
Voilà, par exemple, monsieur.
Il faut descendre en dessous du mur.
Voilà le mur. Avec le niveau de la terre.
Oui.
Le pied du mur, et puis ensuite vous allez avoir le pisé ici.
Oui.
Voilà, ici. Mais pour enlever la terre, vous la prenez, vous laissez quand même une partie, vous ne prenez pas au ras de votre mur de fondation.
Mais si.
Ah oui.
Si. Non, ce qu'il faut, c'est que ce mur de pierre, là, justement, soit fait. Bon, vous avez la terre ici, hein, comme ça. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est la terre. Il faut que cette terre-là. Il faut que le mur de pierre, justement, lui, monte quand même beaucoup.
Ah oui, c'est ça, il monte jusque-là.
Le soubassement monte jusque-là. Pas le soubassement, le soubassement.
Voilà.
Et après, il y a les fondations qui vont plus profondes.
Mais alors, cette terre que l'on prend autour, généralement, on n'a jamais suffisamment pour construire. Hein. Bon, on peut en prendre peut-être une pensée, on peut en prendre sur 1m50 de haut, mais après, il faut ramener.
Et donc, vous débutez avec ça, et pendant que vous montez les premiers, on amène de la terre qui
après, quand la première levée, parce qu'on appelle ça levée, quand on prend ça en coupe comme ça, bon, vous avez ça c'est le mur de pierre qu'il y a dessous. Là, vous avez le niveau du sol qui est le niveau de la terre que vous allez prendre. Là. Et alors vous en dessous, vous avez la fondation qui, elle, se trouve légèrement plus large. Légèrement. Vous voyez? Alors, avec des cailloux, un peu moins beau, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà, vous voyez, c'est cette terre-là, il faut que la maçonnerie descende en dessous. Descende en dessous, bon, il faut quand même que cette terre soit un peu dégagée là pour voir un peu comment ça se passe. Là. Voilà, c'est ça, c'est cette largeur-là qu'on retrouve ici. Et alors, quand cette terre-là, évidemment, on ne fait pas tout le tour d'un seul coup, parce que ça fait beaucoup de travail. Hein. Alors, une supposition, on peut commencer, par exemple, on va d'abord faire cette partie-là. Ce sont des murs de 50 cm. Vous voyez, il faut que l'angle soit quand même amorcé.
Vous commencez par un angle.
Par un angle.
Oui.
En pente comme ça, vous voyez. La terre. Ici là. En bout de façon à ce que l'autre qui arrive dessus reprenne bien. Vous comprenez?
Non. Je ne suis pas.
Allez, alors, une supposition, on veut faire demain ce mur-là.
Oui.
Voilà. Alors, il faut qu'on fasse d'abord l'angle là.
Oui.
Et qu'on arrête ici. Alors au lieu d'arrêter d'aplomb.
Ah, vous, ah, vous arrêtez comme vous si vous rentiez.
C'est ça,
vous avez, c'est ça. Oui, oui. Vous arrêtez comme ça, finalement. Oui. Non,
comme ça, en bien ici.
En pendant, comme ça. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Oui, comme oui, ça. Oui.
Comme d'accord. Si on rentrait un
oui,
pied.
Oui, alors après, oui, on oui, ramène, d'accord. Quand on continue par
oui, oui,
ici,
c'est ça. Oui.
On ramène
oui.
L'autre dessus, comme ça.
Oui, ça consolide.
Voilà, mais parce que oui. Si on laisse ça, oui, oui, ça vertical, automatiquement, on risque une fissure beaucoup plus
grande que ça. Et puis la reprise ne se colle pas, tandis que là, ça s'accroche dessus. Oui, je comprends. Oui, oui,
couvre.
Oui, ça veut dire.
Alors on fait, par exemple, ce qui peut être fait dans une journée, hein, vous savez, à 4 ou 5 bonhommes, c'est sur un bâtiment de 10 mètres, par exemple, oui. C'est à peu près ce qu'on peut faire. Alors là, évidemment...
Une couche.
Alors là, on refait le retour ici, ah, ou oui. Alors on arrête carrément ici, mais alors de la même façon.
Toujours en biais. En pente, oui.
Alors cette terre-là qui se trouve travaillée, hein, oui. Voilà, c'est de la...
C'est de la cosse.
De la, non, de la terre sans cailloux.
Oui, mais pétri.
Pas, oui, mais pas. Il ne faut pas que ce soit de la mauvaise terre non plus.
Non,
faut pas
non.
Que ce soit de l'argile. De la terre, on appelle ça de la coche chez nous. Ce sont des petits cailloux qui ne sont pas durs, là. Vous comprenez ? Un peu argileux.
Oui.
Il n'y en a pas trop de ça, c'est pas bon. Il faut un mélange quand même de.
De terre arable
oui,
et de
ça.
Terre.
Oui,
ce
oui.
N'est pas de l'argile pure que vous prenez.
Non, c'est pas automatique.
Vous arrêtez à l'argile pure.
Oui. Oui.
En profondeur.
Voilà. Alors, les suppositions qu'on commence ici, alors là, on fait comme si c'était une motte de beurre. Le machin. Vous voyez ? Une mottée, qu'on appelait ça.
Oui. De quelle hauteur ?
Oh, ben, on fait ce qu'on veut en fonction de ce qu'on
de
a
ce
besoin.
Que vous avez besoin pour faire le travail.
On en fait une ici, on peut en faire une autre ici, mm-hmm. Et on peut en faire une autre ici, on peut en faire trois ou même plus, hein,
oui.
selon le besoin. Alors voilà, on reprend cette terre-là avec une fourche, on met une couche de terre, je vais faire ça en coupe.
C'est formidable.
Voilà, cette mottée là, oui. Comme ça, une couche de terre, de 10 cm à peu près. Voilà. Une couche de paille que l'on sème par-dessus.
Oui, mais de la paille coupée longue.
Non, de la paille telle qu'elle est.
Avec de la longue, grande paille.
De la paille, oui.
Comme ça,
oui, de la paille comme ça.
Oui, oui.
Il ne faut pas qu'elle soit trop courte, parce que plus la paille est courte, automatiquement,
moi,
elle a moins de liaison.
Oui.
Et alors, une couche de paille.
De combien d'épaisseur à peu près ?
Ah ben il en faut pas trop, hein, il en faut
moins épais que de terre.
Oh de oui, il en faut, je sais pas, un centimètre, que l'on sème par-dessus.
Mm-hmm.
Et alors une couche de paille, une couche de terre, une couche de paille, une couche de terre.
Oui.
Voilà. Et alors après chaque couche de paille, on monte dessus de façon avec les pieds, cette paille-là rentre dans la terre. Voilà.
Et puis après, qu'est-ce que vous en faites de votre beurrée ? Parce que ça doit tout doit venir d'un bloc de votre motte là.
Et on reprend ces couches là après, quand on a fini, quand on est rendu en haut, quand on en a. Généralement, c'est un truc que l'on a une mottée qu'on fait de 60 cm si on veut de haut.
Oui.
On met 60 de haut. Alors, une proposition que tout est fini, les couches comme ça avec la paille. Alors, un gars remonte dessus. Avec sa fourche, et puis il décape couche par couche. Il reprend les couches. Vous comprenez ?
Oui. Mais il reprend les couches en prenant la terre et la paille.
Et la paille qui est mélangée avec la terre.
Ah, oui.
Et ça se reprend facilement bien parce qu'on retrouve les couches telles qu'elles sont.
Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il prend une couche de terre et une couche de paille.
Voilà. Parce que la paille, c'est quand même mélangée.
C'est mélangé avec
par-dessus.
Ça a été écrasé, oui, c'est ça.
Mais la paille est déjà rentrée dans la terre.
Mmh.
Voilà. Et alors, évidemment, quand on n'est pas très haut, il prend directement de dessus, il met ça sur le mur. On ne pourrait pas arracher ça.
Ah, oui.
Il faut justement, alors là, comment on appelait ça déjà ?
Ah oui,
on appelait ça de. Dans le patois par chez nous, on appelait ça de paisseux.
De paisseux.
De paisseux.
Ah oui.
Enfin de. Décoller quoi.
Dépecer un peu. Ça vient.
Quand on voulait coller quelque chose, on paisse ça. Paisse ça. Alors on prenait ça couche par couche et on met ça sur le mur. Alors il y a un autre gars sur le mur.
Ouais.
Il se trouve dans le sens du mur avec une fourche lui aussi.
Ouais.
Et alors il recule. Voilà, si on reprend ça dans ce sens là. Avec sa, le gars avec sa fourche là. Voilà, alors il couche, alors on couche à ce moment-là sur le mur. on en fait une petite couche, on en fait une autre couche comme ça. Et alors toujours, toujours en pente comme ça. Voilà, vous voyez, et il recule, une couche, une couche, une couche, une couche, mais toujours en pente vers lui.
Oui.
Mm-hmm. Voilà. C'est
et cette levée-là, ça fait une levée de 60 cm.
Oui, pas plus. Hein. On peut peut-être un peu plus si on veut, mais alors il y a beaucoup plus de risques. Hein, plus de la... Nous, on les faisait en généralement 60, peut-être qu'il fasse 70 quand le temps était bon. Mais quand ça séchait pas très bien, on était plus...
Alors, si j'ai bien compris, ça faisait 60 cm dans laquelle on retrouvait un peu les couches de votre motet, là.
Oui, enfin, qui était quand même
mélangé. Oui, c'est ça, mélangé. Mais enfin, il y avait plusieurs couches de feuilletage.
C'est ça.
Ouais.
Alors là, ça...
Dans chaque levée.
Ça, c'est le mur.
Oui.
Ça, c'est le mur qu'on retrouve là. Vous voyez celui-ci, je suis monté un peu trop haut là, ça c'est la terre. Là, vous voyez, les cailloux. Et là, on recule. Le gars recule en mettant sa terre, mais comme il faut. En la mettant, vous voyez, il faut que la terre soit
déborde.
Voilà.
N'importe comment, c'était pas régulier, puisque vous aviez fait une motée ronde et que votre mur il est
rectiligne. Ah oui, quand on voit ce mur là, évidemment
ça devait être laid à l'origine.
C'est pas joli, hein, ça a l'air d'un tas de terre.
Oui.
Il faut que le gars avec ses pieds de temps en temps tape sur la terre pour qu'elle
prenne une forme,
pour qu'elle soit tassée un peu et avec sa fourche il tape dessus.
Il tape avec les pieds et la fourche sur la la couche.
Oui, c'est ça, comme ça.
Et chaque fois, il reprend le principe de la pente, là, pour que ça s'accroche bien.
Oui, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose de droit devant lui.
Autrement, il y aurait des fissures à cet endroit-là.
En pente, toujours ce système. Ce système-là, je le disais tout à l'heure, et c'est beaucoup plus facile à faire.
Oui.
Toujours en pente, comme ça.
Oui,
voilà,
puis c'est logique, parce que
alors, il recule sur le mur, puis alors on arrive à faire un mur.
Alors là, sur 60 cm de haut, à peu près.
Un débordement de 10 cm, de chaque côté, toujours. Hein. Et alors, quand c'est sec, cette levée de terre, ça c'est la terre.
Ouais.
Alors, le gars remonte sur le mur, quand c'est sec, 15 jours après.
15 jours après.
Voilà.
Il refait pareil.
Et alors, on refait une autre levée, on les monte.
Mais l'autre, elle est au même niveau que la première.
Oui, mais il faut que celle-ci soit taillée avant de refaire l'autre.
Ah oui.
Quand la première levée
elle est taillée au fur et à mesure.
Voilà, alors il faut qu'il taille par-dessus.
Quand c'est bien sec ou quand c'est mou?
15 jours après.
Ah oui, avant de monter.
Complètement sec, juste avant de monter l'autre.
Il faut que ce soit fait avant l'autre, parce qu'on ne peut plus après.
Ah oui, après on ne peut plus.
Voilà. Il faut qu'il retaille. Il faut qu'il retaille cette. Alors là, on part pareil une levée.
La paroi, là.
C'est ça, avec la paroi. Vous voyez, cette terre-là, alors il s'agit de voir l'aplomb du mur là-dessous, qu'elle fait une petite saignée pour voir si on tombe bien sur la terre, et un peu plus loin aussi, et on remet un cordeau. Quand on remet un cordeau, je vois que le mur est comme ça. Bon, le mur est en pente là. Voilà. Alors toute cette partie-là, tout ça, ça tombe par terre. Ça, c'est bien qu'on se remet d'aplomb avec le mur de terre. Et le même principe après, jusqu'en haut, hein, c'est simple. Alors ça s'appelle pareil une levée. Ça, c'est une levée. On appelait ça une levée de terre.
Et parée.
On part.
C'est-à-dire taillée.
C'est ça.
C'est ça.
Ce sont les termes que nous, on avait dans la région. Dans d'autres endroits, je sais que nous, on appelait ça de la daube.
Oui.
Hein, dans la région de, je ne sais pas si c'est pas de Redon, on appelait ça de la bauge. Alors, on n'a pas les mêmes termes par
Non.
Et est-ce que les méthodes étaient toujours les mêmes d'un pays à un autre?
Moi, je suis allé au Maroc au mois de mars. Hein, j'ai vu au Maroc, on fait beaucoup de terre.
Oui.
Toutes les maisons, chez les Berbères, par exemple, sont toutes construites en terre comme ça. Mais alors, on ne construit pas comme ça.
Des briques.
On fait des agglos de terre.
Mais il n'y a pas de paille.
Si.
Ah oui, les agglos sont faits avec de la paille. De toute façon, dans les côtes du Nord, autour de la région de l'Oudéac, les murs ne sont pas montés comme ça. Les murs sont montés en briquettes de terre.
Mais alors j'ai vu au Maroc aussi ce système-là,
Et alors, dans un coffrage.
Oui, ou coffret.
Dans un coffrage. Moi, j'ai vu ça. On fait un coffrage avec des planches, des panneaux de 50 cm de haut. Et on remplit ça comme du béton armé. Mm-hmm. Et après, on enlève les planches. Remarquez, ça, c'est peut-être une solution aussi. Hein. Je suis allé les voir quand ils ont fait ça. Et alors, j'ai dit, bon sang, mais c'est pas bête leur truc. On banche.
Mmh,
on remplit cette banche-là de terre comme ça et que l'on tasse avec les pieds là-dedans.
Et après, ils enlèvent les banches et on fait la couche du dessus. Oui. Et je crois qu'en Ille-et-Vilaine, dans certains secteurs, ça se faisait aussi.
Ça se faisait aussi.
Mais je ne sais pas exactement où.
Alors, quand cette terre-là est taillée, quand ce mur-là est taillé, il faut que l'on tasse, que l'on refrappe après sur le mur pour pouvoir raffermir le mur. Alors, on faisait ça avec un grand bâton. Toujours sur un mur.
Bâtiez votre...
Ça, on tapait comme ça, si bien que dans, je sais pas si vous avez remarqué, dans certaines fermes par chez nous, on retrouve des traces, des rayures comme ça sur les murs.
Ah bon.
Et ça, ce sont des coups de bâton que l'on a donné dessus.
Et quel était l'intérêt de faire ça?
Eh bien, ça supprimait des petits trous de cailloux, par exemple, parce que quand on met la terre autour des cailloux, ça fait des rayures.
Ah oui.
Alors là, ça uniformise le mur, ça le... Ça,
ils auraient pu aussi taper avec quelque chose de plat.
Bien sûr.
Ah, oui. Ça aurait fait le même effet, je veux dire.
Oui.
Mais c'est... Et alors, bon, ils montaient jusqu'au toit.
Oui.
Et ils attendaient combien de temps avant de poser la charpente?
Ah ben, le même temps qu'il fallait de séchage.
Ah oui, ça suffisait.
Oui, bien sûr. Mais il fallait, pour la dernière levée, il fallait attendre quand même un peu plus.
Un peu plus pour la dernière.
Parce que le charpentier lui sonnait sur le mur.
Oui, comment il faisait le charpentier? C'est ça qui est important.
Dans le mur, je veux prendre le mur.
Attendez, prenez l'autre, prenez-en une propre, une autre, voilà. Ça sera plus, voilà. C'est dommage.
Voilà, je vais vous faire le mur, qui est de haut jusqu'en bas. Voilà, bon, je suis sur un mur de 3 mètres. Bon, alors, sa maçonnerie de pierre dessous. Vous comprenez ? Sa fondation. Là. Alors, évidemment, on retrouve quelquefois certaines ouvertures. Moi, je vais vous faire une fenêtre, par exemple, là-dessus. Voilà. Ça, ce sont les montants de bois. Alors, intérieur aussi. Relié entre eux par des machins comme ça.
Oui.
Et un autre.
Le même montage, ça va sur les murs de pierre.
Voilà, comme ça. Voilà. Alors, évidemment, en-dessus des fenêtres, généralement, il y a un peu de terre. Et alors, il y a une autre levée en-dessus des fenêtres, généralement. Oui. Et alors, le charpentier mettait sa sablière, on appelait ça, qui était posée directement sur le mur. Alors, c'était deux sablières extérieures et intérieures. Comme ça. Qui, elle, est reliée aussi de. Comme ici, de temps en temps, par un autre morceau de bois, comme ça. Et alors après, il y a la charpente qui vient là-dessus. Ça, ce sont les chevrons. Voilà. Ça, de la terre. La terre en dessous aussi, voilà. Ça, c'est de la pierre. Voilà, et généralement le sol ici, là, comme ça. Voilà. Et alors, vous aviez le solivage. Le solivage, généralement, était fait... Alors, on encastrait les poutres. Après, on faisait des trous dans le mur. La terre n'était pas encore bien dure. On encastrait la poutre. C'était une grosse poutre, généralement, qui faisait 30-40 cm de diamètre, qui tombait généralement presque en dessous de la fenêtre, là. La poutre. Et sur la poutre, alors, on remettait des petites solivettes, là, comme ça. Entre les poutres, vous connaissez le système.
Oui.
Vous voyez ? Voilà.
Et ça rentrait dans le...
Et alors par-dessus, après, bon, il y avait le plancher, quoi. Un plancher de château, comme ça, qui arrivait généralement...
Voilà. Et la poutre, elle était enfoncée dans le...
Dans le mur.
Dans le mur. Et ça, quand le mur était sec.
Oui, c'est ça. Quelquefois, on faisait des réservations pour les murs, comme ça, on y mettait un morceau de... Enfin, un petit coffrage avec des planches qu'on enlevait après. C'était quand même...
Comme support de la...
Pour pouvoir avoir l'empreinte de la poutre.
Ah oui,
la poutre, parce qu'on enfonçait la poutre dans un bout, puis la poutre ressortait du mur, et on la ramenait pour la rentrer dans l'autre.
La poutre, on la ressortait du mur.
Mais oui, parce que
on ne peut pas. La poutre est trop longue autrement. La poutre traversait presque. La poutre est venue jusqu'ici, cette poutre-là. Pour qu'elle tienne là. Ça, c'est la poutre, ça. Alors, il faut que le mur soit défoncé, que l'on, que l'on ressorte la poutre pour la,
la ramener à l'intérieur.
Oui, on peut pas autrement.
Et après, comment vous remontiez là? Vous remontiez de la terre?
Oui, généralement, ce sont des choses que l'on faisait avec de la terre, que l'on recalfeutrait après.
Sans remettre de la paille, c'était de la terre, de la terre ordinaire.
Oh, vous pouvez mettre de la paille si on voulait aussi. Oui. Et oui.
Et alors, pour finir ces maisons de terre, extérieurement, il y avait donc les traces de la paroi, les traces du bâton.
Non, la paroi, on ne doit pas les voir. Il ne fallait pas qu'on voit ces traces.
Avant, c'était assez clair, assez net.
Oui, parce que là, si vous aviez un coup de paroi un peu plus rentré, une connote, on voyait des traces, c'est pas joli. Il fallait que le gars,
les gars, les ouvriers savaient bien faire.
Que ce soit bien droit,
bien égalisé.
On retrouvait que ces coups de bâton, là, c'est tout.
Oui.
C'est tout.
Quand les ouvriers étaient de bons ouvriers.
Oui.
Et puis, on les laissait comme ça.
Généralement, celui qui couchait cette levée de daube là sur le mur, c'était généralement le patron.
Le patron,
ça. Patron ou alors un compagnon réellement qualifié.
Et pour qui est-ce qui utilisait la paroi? Là aussi, le patron.
Ah oui. Je me souviens, c'était toujours mon père qui faisait ça tout seul. Alors nous on faisait autre chose, et alors lui a dit, ben, je vais aller parer cette levée de daube là pour qu'on en remonte une autre levée quelques jours après. C'est lui qui taillait ça, à son goût. Évidemment, un des compagnons aurait très bien pu faire le travail de la même façon. Hein. Il s'agit de la jugeote et puis de la
vitesse.
Et savoir comment s'y prendre.
C'était le travail du patron.
Difficile.
Il se mettait sur le mur.
Sur le mur.
Et
debout, sur le mur.
Mais oui, mais... Quand il était debout sur le mur, la paroi, il ne pouvait pas la tenir à l'envers.
Si.
Ah oui, c'est quelque chose qui était... Ah oui, d'accord.
À la
c'est quelque chose de tout droit.
Ah oui. Ça, c'est quelque chose de droit.
Ah oui, une belle droite.
Une belle droite, alors. Debout sur le mur, comme ça. Bon, évidemment, il ne fallait pas avoir le vertige, quelquefois. Comme ça, taillé par-dessus.
Oui, je pensais à une pierre.
Alors, quand le mur était quand même 7-8 mètres de haut, je vous assure, il ne fallait pas avoir le vertige.
Oui, parce qu'il était penché en étant déséquilibré.
Ce qui était le plus dangereux, c'est quand on... Quand on faisait les pignons.
Ah oui.
Vous voyez ça sur les pignons. Là, celle-là, c'était pas facile. Hein. Il fallait que ça se taille de la même façon.
Monter dessus sur le pignon, sur le bout du pignon.
Les levées de pignons.
Oui, comment ils faisaient là, pour le bout?
Ah ben exactement, vous voyez, c'est une levée, deux levées, trois levées, plus ça allait, plus la levée. La levée rétrécissait.
Ouais.
Je me souviens, quand les Américains sont arrivés en 1944, moi j'étais en train d'en faire une dans une pointe de pignon comme ça, auprès de la forêt de Rennes, là auprès de Fouillard. Hein, et les avions américains bombardaient le camp de Fouillard. On a juste le temps de descendre en vitesse sur le machin pour se mettre à l'abri. Ça, c'est auprès de la forêt, à Calèvre, à béton.
Ah, vous étiez donc un pied sur chaque côté
à cheval.
Du mur.
À quel endroit? Comment s'appelle la maison que vous faisiez ce jour-là?
Là, c'est une grange, c'est à Calèvre, à béton.
Ah bon?
Monsieur Madame Delalande à Calèvre, à béton.
Et elle est toujours debout, elle existe toujours, cette maison.
Ah oui, ça s'intéresse de voir ça.
C'est pas une maison, hein, c'est une
grange.
Oh, je pourrais vous en faire voir des...
Ah oui, ça nous intéresse. Et pendant que vous faisiez vos levées et que les levées séchaient, qu'est-ce que vous faisiez d'autre? Parce que...
On faisait une autre construction de la même façon.
Si bien que le maçon, l'entrepreneur, avait plusieurs chantiers en cours.
Généralement, on ne faisait pas que
ça. Vous programmiez.
De la daube, on ne faisait pas uniquement que la daube. Hein. On faisait de la maçonnerie de ravalement, on pouvait faire de la maçonnerie... parce qu'il y avait comme un peu de parfum à ce moment-là aussi.
Oui.
Hein, des transformations, des tas de choses. Sinon, mais enfin, ça nous est arrivé de faire deux constructions en même temps. Pendant que l'une séchait, on faisait l'autre.
Il avait combien d'ouvriers, votre père?
À ce moment-là, pour faire un travail comme ça, il avait 5-6 ouvriers.
Des ouvriers qui étaient spécialisés pour ça ou qui savaient tout faire?
Ils savaient tout faire, mais généralement, à part le travail de celui qui couche la levée sur le mur et qui la taille, les autres, hein, c'est des manœuvres.
Des manœuvres, oui.
Il s'agit de délayer de la terre, de mettre de la paille dedans, de danser dessus et de décoller pour mettre sur les échafaudages. Mmh. Alors, quand on arrivait à une certaine hauteur, on faisait un échafaudage, par exemple, ici. On en faisait un autre ici, qui fait deux, trois échafaudages. Vous comprenez?
Oui.
Alors là, le tas de cette motée là se trouvait ici. Alors on mettait une pelletée là, l'autre reprenait, il repassait ça pour remettre par devant, il remettait ça et l'autre reprenait, vous voyez,
ça,
dessus là, pareil,
et on mettait ça sur le mur. Ouais.
Par fourchet. On prenait une petite fourchette à chaque coup, mais c'était pas la grande vitesse. Hein,
ah non.
C'était pas les mètres cubes de béton qu'on déverse aujourd'hui dans les, sur les planchers. Hein.
Et alors, cette maison, on n'y touchait plus. Elle était définitivement finie, en façade.
Là, comme ça, et puis une barre de fer pour enfoncer dans le mur. Avec un échafaudage.
Oui. Ah oui.
On avait
oui.
une perche, on appelait ça des perches de bois. Mmh. On enfonçait une barre de fer dans le mur. Et on plaçait une bastingue dessus, des planches, quoi, comme ça.
Mmh. Ah oui.
On enfonçait la barre.
Dans la terre.
Dans la terre, ça faisait,
et ça faisait un trou.
Ça faisait un tout petit trou que l'on rebouchait
après.
Ça faisait un petit trou comme ça.
Oui. Mais pour que la maison soit bien finie, quel est son aspect définitif, est-ce que vous faisiez une couche d'enduit à la fin?
Oui, bien sûr, mais alors à cette époque-là, on n'était pas tellement l'habitude de refaire des enduits sur ces murs-là.
Regardez.
Voilà ce qu'on a trouvé.
On en fait aujourd'hui pour préserver les murs, mais à cette époque-là...
Alors ça c'est en intérieur.
Oui, j'en ai fait. J'ai vu, mais extérieur aussi. Ça ce sont des murs de chaux de brasse. Mmh. Voilà. C'est de la chaux que je vous parlais tout à l'heure, de la chaux qui est éteinte avec un mélange de sable.
Oui.
On faisait une couche plutôt mince comme ça. Et puis alors on faisait un jetis dessus après.
Là, alors que vous mettiez, non, il n'y avait pas de jetis.
C'était un enduit intérieur, ça. Il y avait
oui, c'est un enduit intérieur.
C'est
taloché.
C'est taloché.
Mais ça s'accrochait comment sur votre mur de terre?
Comme ça. Directement. Intérieur, oui, mais extérieur, il fallait mettre un grillage.
Ah oui, vous mettiez un grillage?
Oui. On le fait d'ailleurs aujourd'hui encore. Hein,
un grillage sur un enduit, sous un enduit à la chaux.
Oui, c'est ça.
Je pensais que la chaux mangeait le fer.
Le fer, il n'y a pas de fer dans la mur de terre?
Non, mais si vous mettiez un grillage avant de faire
un grillage galvanisé, attention. Ouais.
Oui. Mais c'est beaucoup plus récent, ça, le grillage galvanisé.
Oui, en fait, c'est aussi, il y a longtemps.
Votre père, en 1904, il mettait un grillage déjà.
Ah ben, en 1904, je ne sais pas. C'est possible que non, mais moi, le temps que j'ai travaillé avec lui, on mettait déjà des grillages.
Ah oui, parce que vous êtes jeune.
Oui. On le fait toujours. Quand je fais une façade sur un mur de terre aujourd'hui, automatiquement, moi, je ne peux pas faire de façade sans mettre de grillage. Parce qu'il y a un risque de décollement, quand même. Tout ça dépend du mur qu'on a fait, du mur de terre. Vous avez un mur de terre où la terre, l'enduit s'accroche bien sur la terre. Mmh. Vous avez d'autres terres qui sont beaucoup plus friables, où l'enduit ne s'accroche pas si bien dessus. Quand même.
Alors là, c'était à même la terre,
oui.
De la chaux et du sable, de talocher. Il n'y avait qu'une couche.
Une couche.
Une couche d'un centimètre.
Pour les enduits intérieurs.
Mmh. Oui. Une seule couche d'un centimètre.
C'est ça. Alors, les enduits extérieurs, une couche comme ça aussi, mais alors on remettait un jetis dessus. Vous savez les jetis qu'on fait avec une tyrolienne aujourd'hui?
Oui.
On faisait pas ça avec ça,
c'est un balai.
Là, avec un balai. Oui. On allait en forêt, on prenait du bouleau, on faisait un balai, et puis alors avec un bout de bois, on trempait, on délayait de ce mortier-là dans une caisse à mortier, légèrement mou. On trempait notre balayette dedans et avec un petit bout de bois, on tapait sur le bout de bois et ça s'en allait sur le mur.
Vous tapiez avec le bout de bois sur le bout de...
Ça c'est la, ça, c'est la balayette et ça c'est le bout de bois, vous comprenez. On trempait dans le machin plat, on trempait pas comme ça, on trempait la balayette à plat sur lequel venait se fixer le mortier.
Oui.
Et alors on tapait sur le bout de bois.
Ah, oui. Donc c'est la projection qui allait sur le
mur.
Il fallait qu'il soit très liquide votre...
Mais c'était exactement la même composition que la couche d'enduit
intérieure. Riche en chaux ou riche en sable?
Moitié-moitié. Hein.
Ah oui.
Il ne faut pas que ce soit trop mal, il ne faut pas qu'il y ait trop de sable parce que automatiquement l'enduit n'était pas très dur à ce moment-là.
Mmh. Oui.
Les chaux grasses là, c'est...
Parce qu'on voit encore des maisons de terre... Bon ben, le mur principal a été raviné par la pluie, on voit les cailloux, on voit la paille, mais protégé sous le toit, sous la sablière, enfin au niveau sous le balai, on devine encore une couche très fine.
Oui, oui.
Pas plus épaisse que
oui,
ça,
ah, oui,
mais sans grillage à l'époque.
C'est ça, oui, oui, ben, vous avez raison. Oui, il y a ce procédé-là, on mettait une couche très très fine hein, dessus. Peut-être un demi centimètre, c'est tout, simplement. Comme
et
ça.
Qui a l'air très grasse, on a c'est presque ça. L'impression voilà, que ce n'est que de la chaux.
On ne faisait pas. Si, si, oui, il y a ça aussi. Mais moi je n'ai pas connu ça. Hein. Et alors, on faisait une couche très mince et puis c'est tout. Alors on envoyait ça avec une truelle comme ça. On n'y a pas de talochage du tout. Hein.
Là encore du
comme,
sable
comme
et de la
sable. Rustique que l'on oui. peut faire aujourd'hui, oui. hein, mais directement sur le mur de terre comme ça.
Et,
ça tenait bien.
Et écrasé, c'est
non,
tout. Ah non.
Directement. Ça fait, moi je fais des enduits rustiques aujourd'hui comme ça. On fait ça directement sur le mur comme ça, avec un mortier un peu plus épais. Voilà, on trouve des coups de truelle comme ça. Des truelles spéciales. Vous n'aimez pas ça?
Ça fait du faux. Je ne trouve pas que ça fait faux. Nos ancêtres, votre père devait s'appliquer à faire ses enduits. Maintenant, on fait du faux en relief, comme si on était maladroit. Alors qu'ils faisaient si bien, les gens, avant. Ils s'appliquaient tant.
Ah oui, il y avait beaucoup plus d'applications aujourd'hui. C'est
sûr. Alors, différents enduits, oui, c'est ça ce qu'on voulait vous demander. Est-ce qu'on mélangeait, c'était toujours les enduits intérieur-extérieur étaient faits avec de la chaux et du sable. C'était oui. jamais de la chaux et de la terre.
Non,
vous n'avez pas connu ça. Et de la ou de la terre et des poils.
Non plus, je connais.
Non plus, vous n'avez pas connu ça.
Je sais que ça se faisait avec des poils de vache. Poils de vache, ou je ne sais pas trop ce que c'était.
Hein. Oui, on a rencontré.
Alors, pas les enduits intérieurs surtout, hein.
J'ai pas demandé.
J'ai fait beaucoup de démolitions avec ces enduits intérieurs là où l'on retrouvait du poil, soi-disant que c'était du poil de vache ou de je sais pas trop quoi.
Des chevaux, des vaches. On a rencontré un vieux maçon à Médréac, le père Genrock, qui est en retraite maintenant. Et qu'il va falloir qu'on aille interviewer si on fait une opération sur Médréac. Il nous disait qu'ils achetaient chez les tanneurs. Le poil par aux abattoirs, chez les écarisseurs.
Ah, oui.
Le poil par grand sac de 50 kilos, là, et qui mélangeaient pour leurs enduits.
Ah oui. Mais moi, je ne l'ai pas fait.
Alors voilà ce qui. Bon, voilà ce qu'on voudrait faire. La maison de la culture fait venir en mars cette exposition-là, Architecture de terre. Qui a été présenté à Beaubourg. Alors voilà des photos de ce qui va être montré, l'architecture de terre dans le monde entier, surtout les pays.
Ah oui, on retrouve ça en Europe, dans ces pays chauds-là.
Et actuellement, les Américains s'y mettent. Et on fait beaucoup de maisons bioclimatiques en terre aux États-Unis. C'est le grand chic. On fait en France, on a fait tout un lotissement à Grenoble en terre.
Comme ça.
Oui.
Ah, oui.
Et parce que c'est très isolant.
Ah bah oui.
Vous voyez les méthodes des anciens reviennent, on les retrouve.
Point de vue isolation thermique, hein, c'est ce qu'il y a de mieux.
Phonique, thermique.
Phonique aussi.
Mais alors nous pensons que. Ça a un avenir, la Terre, et tout le monde n'est pas les premiers. Tout le monde pense que la Terre a un avenir, mais qu'il faudra que la recherche s'empare des techniques, à condition de bien connaître les techniques anciennes. Tout part des techniques anciennes et de l'évolution.
C'est ça, il faudrait que ces techniques anciennes-là soient justement revalorisées, corrigées, le cachet, parce que nous, on faisait ça comme ça, mais il y a sûrement d'autres... d'autres façons de faire ces murs de terre-là.
Puis on n'a plus les mêmes moyens actuellement en homme, ça coûterait trop cher. Par contre, on a des machines qui pourraient reprendre les techniques anciennes faites par l'homme pour les adapter aux machines et de façon à ce que ce soit réutilisable. Mais nous pensons qu'il faut d'abord, la base, c'est connaître les méthodes anciennes.
C'est ça, c'est sûr.
Et c'est pour ça que pendant qu'ils vont faire venir cette exposition à Beaubourg, nous, on aimerait faire ce petit chantier où on fasse refaire les gestes que vous savez faire.
C'est ça.
Mais quand je vous entends parler, qui va savoir faire les couches en biais? Qui va savoir faire?
C'est ça, il faudrait qu'on leur explique. Ça. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de faire un bâtiment. Moi, je pense qu'il faut d'abord savoir, justement, faire un angle de mur seulement, comme je vous parlais tout à l'heure, là, pour savoir un peu, et puis alors, le restant, ben, on monte, et puis c'est tout, hein, c'est pas de problème.
Alors, nous avons trouvé un lieu à béton, à Cesson. Une de nos adhérentes a une maison de terre et elle a l'intention de faire un drainage autour de sa maison de terre qui doit dater de 1600 à peu près. Et cette terre qu'elle va drainer, elle pensait le faire à la pelleteuse et nous réserver la terre. Et dans son jardin, elle met son jardin à notre disposition pour faire un abri de jardin, commencer un abri de jardin qui servirait de lieu de démonstration du pisé. Il faudra donc avant on fasse faire le mur.
Voilà, il faudrait qu'il y ait un mur de pierre de fait dessous.
Oui.
Fondation et soubassement.
Alors, est-ce que la fondation peut être faite en béton
ce serait dommage.
En pierre pareil.
Bon, est-ce que vous accepteriez, si on vous trouve de la main d'œuvre, de surveiller et puis de dire aux gars qui sont là, aux bénévoles, ou éventuellement un maçon qu'on embaucherait, comment faire? D'autant que cette maison à Cesson, pour cette maison, elle n'aura l'autorisation. Il va falloir qu'elle fasse une demande de permis de construire. Elle n'aura l'autorisation de faire un petit bâtiment annexe de 3 mètres, de 6 mètres carrés.
Oui, 3 mètres par 2.
Oui, ce ne sera pas très long.
Oui.
Alors, est-ce que vous accepteriez de diriger sans rien faire, mais d'expliquer aux gens comment faire?
Oui, il faudrait venir un jour ou deux. Quoi.
Il faudrait qu'on vous trouve de la main d'œuvre.
Oui, alors là, ce mur de pierre-là, on n'a pas besoin de moi pour faire ça. Si vous trouvez un maçon.
Oui, mais on voudrait faire avec de la terre aussi. De la chaux. De la chaux et du sable.
De la chaux, c'est le même procédé de faire de la maçonnerie.
On le ferait monter avec la chaux et du sable. Oui.
Avec la chaux ou alors du ciment, ça n'a pas d'importance.
Non, on va le faire aussi.
Non, mais en fait, ça se travaille de la même façon, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est ça que je veux dire.
Oui, mais ce qu'il faudrait lui expliquer.
Un maçon, si vous avez un maçon, il saura quand même bien que
la fondation est
oui, mais est-ce que vous accepteriez de le lui expliquer? Parce que si c'est nous qui lui expliquons, il risque de nous prendre un peu un deux
si vous avez
à la légère.
Un professionnel, remarquez, quand je construis une maison, moi aujourd'hui, c'est le même procédé.
Oui.
Je fais la fondation légèrement plus large et puis le mur de...
Bon, donc tout ça pourrait être fait par un professionnel.
Oui, c'est ça.
Et puis, à partir de ce moment, pour les murs, il n'y aura pas d'ouverture. Il y aura que la porte, une des faces sera ouverte.
Oui.
Il y aura trois murs. Et puis par-dessus, en coupe, je pense qu'elle va mettre un toit comme ça.
Oui.